Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à faire entendre votre voix. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Aube, c'est aussi une revue et un blog avec plus de 400 entrées sur tous les sujets. Toutes nos émissions sont disponibles en balado et chaque capsule peut être téléchargée via laplumedefeu.com. Aube, épisode 43. Que vous soyez un militant de longue date, un néo-hippie, que vous nous écoutiez du fin fond des bois, dans la rue, en train, à cheval ou en Cadillac. Dans ce 43e épisode, Aube s'intéresse à différents modes de vie et aux nombreux outils pour mettre en lien cette courte pointe de réalité. Au sommaire, une entrevue avec Marie-Ève Arbour du projet Visages régionaux. L'organisme Relance Jeunes qui vient en aide aux familles dans le besoin. Et le sac à dos qui se penche sur le défi de l'itinérance. Deux ermites ou l'art de vivre dans les bois. Une synthèse du livre Les enfants du soleil. Et un épisode de l'apostrophe de Monsieur Tubercide. Comme d'habitude, Aube te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives. De prendre action simplement par une prise de conscience. Le mot-clé, quotidien. Entre nous, collaborateurs et collaboratrices, nous avons toujours parlé affectueusement de Aube comme d'un enfant. Un enfant que nous portions en nous. Et chaque fois qu'on publiait une revue par le passé, que la première copie sortait du fourneau de l'imprimeur, tout frais, tout chaud, notre petit groupe la feuilletait tout béat d'admiration, faisait sauter ses petites pages entre nos doigts. Et moi, le sourire aux lèvres, je m'exclamais que c'était la plus belle des plus belles revues à ce jour. Comme un enfant, Aube a un cycle. À la radio, le cycle est plus rapproché qu'en édition. Peut-on parler que la communication est un mode de vie? Je me rappelle il y a 43 semaines, un certain début de l'été. 43 heures de solutions, d'utopie, de coups de cœur, de tranches de vie. 600 capsules disponibles sur notre site web. Et bientôt, la fin de la première saison. La ligne d'arrivée, le dernier croche. Je ressens cette douce impression de voyage qui se dessinait. Un sentiment de liberté, un frisson. La liberté de profiter de la vie, du paysage, de l'ici, du maintenant. Une idée de voyage en France, en vélo, pour voir ce qui se passe par là-bas. Journaliste citoyen de terrain, pourquoi pas. Et Aube qui hibernait en moi. Cet épisode qui n'existait pas encore, mais qui prenait déjà des couleurs, vivait au rythme de son petit coin de paradis, de ses saisons. Cette idée d'émission lancée à la volée. Aube, c'est avant tout une histoire de cœur, et surtout d'idées. Car oui, tout doucement, ces idées-là ont fait un bout de chemin dans la grande idéosphère. Au contact avec les autres idées, les rencontres qui s'entrechoquent, Aube a fini par grandir. D'un enfant un peu fou, une grande ado maintenant. Je suis très fier de notre parcours. Même si la réalité finit parfois par nous rattraper, septembre après septembre, depuis 2002, le retour à l'écriture, à la route qui l'attend, le retour aux rencontres dans les cafés, entre ses idées et celles de ses lecteurs, et maintenant ses auditeurs. Jouer à faire de la radio, chaque semaine, quelle drôle de vie. Il y a 43 semaines, j'ai mis fin à ses vacances hors du système médiatique. Car pour un concept né un certain jour de 2002, son chemin de vie en tant que façon de penser s'est épanoui. Et moi, maman de Aube, je fonce encore une fois, je la chéris, je l'aime cette idée, je la prends par la main. Je sais maintenant que le chemin est sinueux, imparfait, chaotique. Le sentier de toutes ces idées se perd dans les méandres d'une forêt centenaire. Ce chemin est aujourd'hui arpenté par des milliers de pionniers. Il y a eu du chemin depuis 2002. Des êtres étranges ont décidé de vivre de l'autre côté, à l'inverse. Ce curieux système qui nous contraint, qui nous guide ou nous harcèle, qui nous élève parfois. Cette société qui nous garde bien pensante entre des balises, qui se situe entre un point A et un point B, officiel, superficiel, matériel. Cette réalité dominante qui nous empêche de nous élever et de penser, qui nous empêche de nous ouvrir aux autres réalités, à d'autres niveaux de vie, aux autres points de vue. Cette subjectivité dont l'humain n'est pas l'unité de mesure, et ne le sera probablement jamais. Au départ, la thématique de ce nouvel épisode de Aube était le mode de vie, l'enracinement. Cette réalité qui nous amène à outrepasser les règles établies pour créer quelque chose d'autre, de nouveau. La réalité qui nous confronte et nous amène à nous élever, à grandir, à nous réaliser et à bâtir un projet, une famille, une micro-société. Cette réalité omniprésente, éphémère, intangible et propre à chacun. et l'enracinement. Cette action qui nous amène à concrétiser nos rêves, notre vision d'un monde meilleur et qui nous pousse à entreprendre et à réaliser nos actions dans la matière, dans cette réalité qui parfois nécessite de nouvelles valeurs, une esquisse d'un changement, une nouvelle façon de voir le monde, un nouveau paradigme. Cet épisode est pour vous, artisans d'un monde nouveau, pionniers de cette nouvelle réalité. Merci d'être là.
Dans une période et une région du monde où l'individualisme nous enferme dans notre petit monde, nos préoccupations matérialistes est très terre à terre. Moins de place pour penser, plus d'argent pour compenser. Et quand on passe son temps à travailler pour payer sa maison et que la principale préoccupation est de savoir comment faire fructifier ses avoirs afin de permettre à ses enfants d'aller à l'université, l'investissement citoyen est loin dans les préoccupations. L'implication dans les problématiques communes apparaît par petites bribes, englobant différentes générations et différentes tendances politiques. Encore marginale il y a quelques années, la tendance va en s'accroissant. Bon, il est vrai qu'un samedi après-midi au Centre Eaton ne donne pas vraiment cette idée d'un mouvement populaire en faveur de la décroissance ou de la simplicité volontaire, mais un petit peu partout au Québec et dans le monde, les initiatives pour s'impliquer davantage se multiplient. La question que l'on se pose aujourd'hui, c'est si je veux m'impliquer au niveau écologique, citoyen, environnemental, si je veux réduire mon impact, manifester mon désaccord envers des mesures politiques, par quoi je commence ? Comment rejoindre un groupe dont je partagerai les valeurs, les modes d'action ? Et comment découvrir des initiatives inspirantes ? Eh bien déjà, on commence par parler à son voisin, à liker des pages Facebook alternatives. Rien que le fait de s'inscrire à des paniers bio est un premier pas. Les moins connus ne sont pas forcément les moins bien, ils consacrent simplement moins de budget à leur promotion et à leur marketing. En vous fournissant chez des producteurs locaux et bio, vous commencerez déjà à prendre connaissance d'un réseau plus alternatif. Et ça y est, c'est fait, vous avez fait le premier pas. Dans votre quartier, derrière chez vous, regardez bien. Il se peut que vous ayez des ruelles vertes. Quand on parle de ces ruelles vertes, il ne s'agit pas simplement d'arrière-cours dont on a substitué les poubelles par des tulipes. Les ruelles vertes, c'est tout un concept. Je t'explique. Il s'agit d'un projet de renaturalisation par les riverains en collaboration avec l'écoquartier de l'arrondissement. Cette initiative datant de 1986 encourageait d'abord la réappropriation de l'espace par les riverains. Si tu fais en sorte que ton arrière-cour soit plus joli, tu auras moins tendance à y balancer des machines à laver. Une fois occupées, ces ruelles davantage fréquentées suscitaient moins de vandalisme. Et pour le mettre en place, c'est tout simple, des riverains se regroupent, créent un comité, dépose avec l'écoquartier un projet auprès de l'arrondissement qui, s'il accepte le projet, donne un petit financement pour les travaux nécessaires et les permis autorisant l'aménagement. Aujourd'hui, Montréal compte 46 km de ruelles vertes et seulement en 2015, 29 ruelles vertes ont été créées. Les ruelles ainsi aménagées créent des îlots de fraîcheur au milieu du bitume et permettent la socialisation. Alors avec les beaux jours, une petite idée de sortie. Prends ta bicyclette et va faire un tour, la carte des ruelles vertes est sur internet. Tu n'auras qu'à taper ruelle verte dans ton furteur préféré pour tomber dessus. Pour les initiatives citoyennes engagées, c'est assez simple. De nombreuses pages Facebook existent et te tiendront au courant des rassemblements. Manif Montréal, la Fondation Suzuki, Ensemble contre les sables bitumineux, IRIS, Institut de recherche et d'information socio-économique, Stratégie Saint-Laurent, bref, c'est pas compliqué, il y en a plein. À toi d'aller fouiller un petit peu. Si tu as besoin d'un dégrossissage préalable, une très belle initiative est en train d'être mise en place. Visages régionaux, un répertoire web qui recense toutes les initiatives en écologie, engagement citoyen, alimentation saine, récréotourisme, enseignement ou encore politique locale. Ils sont actuellement en train de lever les fonds pour créer leur site web. Ça promet d'être assez intéressant et de refléter tout le dynamisme et l'investissement des citoyens de région. Cette initiative reprend le projet déjà en place en France et qui commence à s'étendre au reste de l'Europe, les utopies concrètes. Alors imagine une carte interactive avec des points partout de différentes couleurs qui recensent tous les cafés citoyens, épiceries fonctionnant sur le mode du troc, les fermes biologiques autogérées, les coopératives d'alimentation, les écoles Montessori, les librairies indépendantes et j'en passe. Tu peux faire une sélection en fonction de tes intérêts ou des régions visitées. Cette constriction vraiment encyclopédique s'étend même à la Suisse, en Espagne, à l'Allemagne, au Luxembourg et en Belgique. Bref, tout ça pour dire qu'on n'a qu'une vie. Alors la tienne, elle te sert peut-être à grandir, consommer, élever tes enfants, acheter et jeter. Mais si tu regardais plus loin, plus grand, plus profond et plus large, tu ne penses pas qu'elle serait encore plus intéressante ?
C'était un topo d'Aurélie Suberchico. Bonjour.
Alors bonjour, mon nom est Marie-Ève Arbour, je suis cofondatrice de Visages régionaux et c'est moi qui pilote la deuxième édition du projet. Visages régionaux, on est en train d'en faire un répertoire du Québec rural alternatif. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est vraiment documenter des centaines d'initiatives qui s'inscrivent dans un développement régional qui se fait par et pour les ruraux. 2011, on est parti avec notre petit camion à l'huile à patate, on a créé un site web, on avait une petite caméra vidéo, on avait un peu de financement de la bourse Laure Varidel et on est parti à travers le Québec documenter une cinquantaine d'initiatives qu'on disait à vocation socio-environnementale. Donc on avait un axe d'autonomie alimentaire, de construction écologique et de participation citoyenne. Et comme on avait peu de temps, on avait 4 mois pour faire une tournée des régions du Québec, on avait documenté 50 initiatives. Le temps passe, le site web est plus à jour, le contenu non plus. Et là, on s'est dit, pourquoi pas justement pousser la machine un peu plus loin, ouvrir la programmation pour que les gens, là, on n'a plus le temps d'aller à leur rencontre, d'aller faire une tournée des régions du Québec, tranquillement, une campagne de socio-financement pour essayer de lever des fonds. J'ai déjà reçu, juste par le buzz que la campagne de socio-financement a créé, j'ai reçu à peu près 130 projets qui peuvent s'inscrire dans les axes thématiques de Visages régionaux, la nouvelle édition. Et ça, j'ai pas fait de communication encore ciblée pour approcher des projets qu'on connaît. Les projets sont nombreux, mais la convergence est manquante, puis c'est là où Visages régionaux veut répondre à ce besoin-là. Les projets qu'on va répertorier, on doit répondre à 4 critères. Le premier critère, c'est des... En fait, il faut que ça soit fait par un développement qui vient de la base, donc qui mise sur un empowerment de la communauté, puis dans une démarche dans une démarche participative. De plus en plus, les gens s'organisent sur le territoire et créent des projets, des entreprises, des initiatives qui répondent à leurs besoins. Donc, c'est vraiment ce genre de projet-là qu'on veut mettre de l'emphase. C'est des projets qui viennent de la base, d'où un peu le côté alternatif de ça. S'inscrivent dans une démarche qui vise à rendre la communauté plus dynamique puis plus solidaire. Il faut aussi que ça soit dans une municipalité qui est de moins de 25 000 habitants parce qu'on veut vraiment miser sur les milieux ruraux. Bon, c'est toujours les grands centres qui attirent l'attention parce qu'évidemment, il se passe plus de choses au niveau de l'actualité puis tout ça. Donc là, l'idée de Visages régionaux, c'est que pour une fois, le canal de communication est inversé. C'est que nous, on a des gros réseaux urbains parce qu'on vient de la ville, on vient de Montréal, puis c'est ça, on a ces réseaux de communication-là. Donc là, l'idée, c'est de... Au lieu de que les régions entendent parler de la ville comme d'habitude, ben là, ça va être l'inverse. C'est les villes qui vont entendre parler des régions, puis c'est les régions entre elles qui vont entendre parler d'elles-mêmes. T'sais. Sur le répertoire, je veux des projets qui sont soit réalisés ou en cours ou sur le point de l'être. Je veux pas nécessairement des projets qui sont dans l'air, qui sont pas déjà mis en place, parce que je veux montrer ce qui se fait, pas qu'est-ce qui va se faire. C'est sûr que dans un deuxième temps, ce que j'aimerais, c'est que Visages régionaux puisse être un genre de portail où les gens qui ont des idées puissent dire « Ok, moi j'aimerais ça partir une ferme à telle place avec un volet d'éducation du public. Je me cherche du monde avec qui faire mon projet. Pour l'instant, j'ai personne. Je lance l'appel, puis là, boum, ton affiche, ça tombe, ton post tombe sur le babillard, puis quelqu'un d'autre qui rattrape ce post-là. Hey, moi, ça m'intéresse. » J'aimerais ça pouvoir répondre mieux aux besoins des milieux ruraux. Parce que je me dis, les porteurs de projets qui sont un peu partout sur le territoire, ils doivent avoir des besoins qui, à un moment donné, se recoupent d'une initiative à l'autre. Oui, il y a 50 vidéos qui ont été faites. Visages régionaux a une chaîne YouTube, donc c'est des projets sont uploadés sur YouTube. Fait que c'est possible d'aller voir les vidéos qui sont là-dessus. Sinon, il y a des textes aussi qui ont été écrits. Là, présentement, le site web, on l'a enlevé d'Internet parce qu'avec toute la nouvelle édition qu'on est en train de faire, je voulais pas nécessairement que les gens arrivent sur un contenu qui n'était pas à jour. Donc, j'ai des archives moi-même, mais les porteurs de projets qui vont se réinscrire finalement sur Visages régionaux vont pouvoir mettre l'information à jour. Donc, ce qu'on retrouvait en 2011 sur le site va être bonifié et rendu accessible sur le nouveau site. Et les vidéos qu'on avait réalisées vont être associées quand même aux nouvelles pages. Visagesregionaux.org. Et quand vous arrivez sur cette page-là, vous pouvez faire deux choses. Premièrement, vous pouvez préinscrire votre projet au répertoire. Donc, si vous êtes en milieu rural, que vous faites un projet qui est structurant pour votre milieu, vous pouvez nous envoyer un court formulaire là, en quelques phrases, en quelques mots, vous nous décrivez votre projet. Vous allez recevoir éventuellement le lien pour remplir votre fiche pour que ce soit en ligne sur Visages régionaux. Et vous avez le lien pour accéder directement à la campagne de socio-financement. Donc, sur cette page-là, qui est sur la plateforme de Ulule, vous allez avoir une vidéo de 2 minutes là, qui explique le projet, mais vous avez aussi tous les détails, non seulement des contreparties qu'on offre, mais aussi de ce qu'on veut en faire, des axes thématiques, de à quoi va servir le financement, tout ça est détaillé là-dessus.
Pour Aube, c'était une entrevue de Philippe Lérémy.
Je banalise tout. Le bout du monde ne sera jamais assez loin pour moi. Je banalise tout. Le bout de mon nez est bien assez loin comme ça. Le sida, la famine, ces mots qui ravagent l'Afrique sont que des mises en scène pour nous soutirer quelques larmes. Car c'est notoire, notre argent qui part là-bas revient vite en contrat lucratif pour nos fabricants d'armes. Je banalise tout. La misère noire ne sera jamais assez nègre pour moi. Je banalise tout. Le bout de mon nez est bien assez loin comme ça. On nous martèle que l'Asie se développe tellement que l'effet de serre s'en trouvera multiplié par 100. Moi je dis pas de panique, ce n'est que l'histoire qui se répète. Un grand bond en avant pour que la machine pète. Hey, je banalise tout. La fin du monde ne sera jamais assez loin pour moi. Je banalise tout. Le bout de mon nez est bien assez loin comme ça. Guérilla colombienne, crise économique argentine. Les USA, le FMI surveillent nos intérêts. Car l'Occident s'n'est foutu des trousses, l'Amérique latine. À coup d'être nationale, ce que l'on colonise bien. Hey, je banalise tout. Les pays pauvres ne seront jamais assez pauvres pour moi. Je banalise tout. Le bout de mon nez est bien assez loin comme ça. Que de futilité au Moyen-Orient. Les gens se casent, se kamikazent, se massacrent tout le monde.
Le 18 décembre 2015, Valérie Crête et Marie-Ève Pinault organisaient en collaboration avec les artisans de CIBL 101.5 Montréal un événement bénéfice pour le Sac à dos, un organisme qui vient en aide aux personnes dans le besoin dans le centre-ville de Montréal, où est implantée la station de radio citoyenne. En tant que caméraman attitré à l'événement, j'ai profité de l'occasion qui m'était donnée pour échanger sur la problématique de l'itinérance avec Nicole Blouin, responsable aux communications pour le Sac à dos.
Je travaille au Sac à dos, je suis responsable des communications et je trouvais inquiétant de voir cette augmentation et de tous les âges. Hein. Et ça, c'est assez inquiétant. M. Bergeron disait que c'était peut-être le succès de l'organisation. Je pense que peut-être, mais aussi qu'il y a une incidence, il y a une réalité là. Il y a une présence dans les rues hein, qui est évidente. Là.
Comment as-tu trouvé ton sac à dos aujourd'hui? J'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça beau de voir cette solidarité-là de tout le monde qui a voulu participer pour aider nos voisins, les résidents de notre quartier ici. Puis c'était vraiment un bel élan de solidarité et d'humanité à l'approche des fêtes.
Est-ce que c'était la première fois que tu faisais le sac à dos?
C'était la première fois et certainement pas la dernière.
Combien il y avait de personnes à peu près? Combien au bas mot? 200, 150, 200, 250?
J'ai entendu dire qu'il y avait autour de 250 personnes, puis ça a paru parce que ça n'arrêtait pas, puis c'était merveilleux.
J'ai adoré mon sac à dos.
Ta première expérience au sac à dos?
Oui, la première expérience, et comme Julien l'a dit, ça sera pas la dernière. Mais moi, je trouvais ça très agréable, mais aussi très inquiétant de voir que l'année passée, on a parlé d'à peu près 150 personnes, et maintenant, on a parlé de 250 personnes cette année. Donc, est-ce que c'est la pauvreté qui augmente? Est-ce que ce sont les gens qui ont encore plus faim? Donc, c'est une question, puis je pense que c'est une question de société auquel on doit répondre.
À New York, qui faisait le modèle de housing, et on disait que le housing était un modèle qui permettait justement de sortir les gens de la rue, mais on voit que le dénombrement qu'ils ont fait n'était pas représentatif de la réalité.
Bien, c'était une expérience magnifique, très généreux, beaucoup d'énergie. Très, vraiment. Bien, je pense pas qu'il y ait comme une personne qui m'a vraiment marqué. Je pense que c'est juste. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que tout le monde était pareil, tout le monde était égal, tout le monde était heureux, tout le monde était heureux d'être ici.
Bien, le problème, je crois, au départ, à la base, c'est la pauvreté. Évidemment, les inégalités sociales, mais c'est la pauvreté et aussi la maladie mentale également. Il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies mentales, donc la désinstitutionnalisation n'a pas aidé dans le sens qu'il n'y a pas de suivi. Alors, toutes ces personnes-là se retrouvent à la rue. Voilà.
Si on a des inégalités sociales qui augmentent, je pense qu'on peut quand même se questionner.
Oui, mais c'est pour ça qu'il faut mobiliser les citoyens. Moi, je crois que c'est à la base les citoyens qui peuvent faire les choses. La responsabilité citoyenne est importante et c'est comme ça qu'on pousse les gouvernements à réagir parce que eux, ils fonctionnent, leur moteur, c'est les votes. Donc, si les citoyens se rassemblent et considèrent les personnes qui sont dans la rue comme des citoyens aussi à part entière, c'est ça qui est important.
Merci à Nicole Blouin du Sac à dos, à Julien Poirier-Malo et Marie-Josée Paquette-Como de CIBL et surtout à Valérie Crête et Marie-Ève Pinault d'avoir organisé l'événement. Pour Aube, c'était une entrevue de Philippe Laramé.
Lien social, on sous-entend une certaine dose d'entraide, entre générations, entre travailleurs, entre catégories socio-professionnelles. Le lien social est opéré en dehors du lien familial, il est ce que chacun construit individuellement. Il est à la fois un construit individuel et ce qui nous relie aux autres, à la fois « je » et à la fois « nous ». Ce lien social est parfois mis à mal par des difficultés économiques ou familiales, des différences d'éducation, des problèmes de santé ou encore via la violence. C'est là que les organismes communautaires interviennent et jouent le rôle de créateurs de liens sociaux et de régularisation des inégalités. Ils remplacent en ville un système de solidarité sûrement plus présent avant l'urbanisation de nos modes de vie et l'idéalisation de la réussite individuelle. Un village fait notamment une grande place aux familles comme microcosme de solidarité. Cette cellule est mise à mal lorsqu'il y a des difficultés et les sources d'aide ne sont pas toujours disponibles immédiatement. De plus, l'inégalité est un fait qui malheureusement démarre dès la naissance de l'individu et qui est préjudiciable à l'ensemble d'une communauté. L'idée que l'on part tous à chance égale est un gros leurre que la société devrait, normalement, essayer de corriger. Nous avons rencontré Benoît Deguire, directeur de l'organisme Relance Jeunes et Familles, un organisme communautaire du centre-sud de l'île de Montréal qui existe déjà depuis pas mal d'années, dont la mission est d'offrir à chaque enfant en difficulté l'occasion de partir à chance égale. En effet, les premières années de vie d'un enfant sont déterminantes pour son développement et son cheminement scolaire. Écoutons-le nous expliquer la mission, les activités et l'encadrement de ces activités destinées aux familles.
D'abord, on a un cœur d'activité qu'on appelle les clubs pour les enfants. C'est-à-dire qu'on s'adresse aux enfants de 6 mois à 12 ans. Puis quand on dit les enfants, c'est la famille, en fait, dans un cadre éducatif. On travaille parallèlement, directement et concrètement tous les jours avec ces parents-là dans des programmes aussi qui s'adressent cette fois plus à leur rôle parental. Et plus largement, on offre aussi à ces familles-là des occasions familiales qu'ils n'auraient pas pu avoir comme des sorties à l'extérieur de Montréal. Il y a de l'aide aux devoirs, bien sûr. Il y a aussi des cuisines communautaires qui se font. Il y a aussi tout un service auprès de deux écoles du quartier, c'est-à-dire grâce au partenariat qu'on a avec la CSDM, avec aussi le Chic Resto Pop, on offre dans deux écoles près de 300 repas par jour à des enfants qui sont dans des situations très précaires, c'est-à-dire où les familles ont une situation financière très précaire. Alors, c'est une autre façon de créer un filet de sécurité pour ces familles-là, de permettre à l'enfant d'avoir au moins le minimum pour qu'il puisse d'abord étudier, se développer. Et chacun des intervenants de la relance établit un plan d'intervention avec le parent. On établit aussi un défi pour chacun des enfants. Et tout ce travail-là se fait non seulement dans les clubs, non seulement avec le parent, mais dans son quotidien à la maison.
Si on résume donc le travail de la relance, ça n'est pas simplement de s'occuper d'un enfant et faire des petites activités bien sympas. L'équipe multidisciplinaire aide à reconstruire la cellule familiale lorsqu'elle est dysfonctionnelle ou problématique, tout en offrant une méthode applicable au quotidien, à la maison. Ces activités ne sont pas fortuites, mais sont pensées en amont suivant des objectifs bien précis et développés par des professionnels. Enfin, les progrès de chaque enfant et de chaque famille font l'objet d'un suivi et d'une évaluation selon des critères qualitatifs. Profitons de cette capsule aujourd'hui pour rappeler que le travail de terrain effectué par ces professionnels est d'une importance capitale. À l'heure des coupes multiples dans les aides gouvernementales aux organismes communautaires, il conviendrait de se préoccuper de ces activités qui contribuent largement au bien-être de tous. Centraide organise chaque année des campagnes de levée de fonds afin de fournir à ces organismes une partie des ressources nécessaires à leur fonctionnement. Le soutien de Centraide permet à ces organismes communautaires de se concentrer sur leur mission et non sur la recherche de ressources via des campagnes de levée de fonds. Si les grands-parents, les oncles, les tantes, bien présents dans les villages, ne sont pas forcément là, les organismes communautaires se battent au quotidien pour recréer du lien, encadrer des personnes vulnérables et faire en sorte de réduire les inégalités. Pour plus d'infos sur le travail encadrant et multiforme de la relance jeunes et familles, rendez-vous sur relance.org. Et si vous souhaitez, vous aussi, vous sentir utile, eh bien devenez bénévole, allez aider concrètement les personnes en difficulté. Car si vous l'avez oublié, le village, eh bien, c'est vous.
Pour Aube, c'était une entrevue d'Aurélie Superchicot.
Singapour est un pays neuf avec une population restreinte, 3 millions d'habitants, pour la plupart chinois. Profitant de cette situation exceptionnelle, Lee Kuan Yew, ingénieur et premier ministre, a tenté de fonder le premier État ordinateur. Comme il le dit lui-même, les citoyens singapouriens sont les puces électroniques d'un ordinateur géant, la République de Singapour. Lee Kuan Yew est un pragmatique. Il a commencé par assurer la sécurité de son petit Disneyland contre ses grands voisins envieux et agressifs, Malaisie, 16 millions d'habitants, et Indonésie, 170 millions d'habitants, par une armée high-tech équipée des machines les plus sophistiquées. Voilà pour l'extérieur. Pour l'intérieur, il veut que l'ordre règne parmi ses petites puces électroniques. Il range d'un côté la ville touristique, de l'autre la ville économique et crée ensuite la ville dortoir. Les trois sont rigoureusement séparés par une frontière composée de 5 km de pelouse nickel. Il édicte des lois très strictes. interdiction de cracher par terre, de fumer en public, de jeter un papier gras, d'arroser ses pots de fleurs en laissant de l'eau stagner, car cela attire les moustiques.
Je crois qu'à la base, je voulais faire le bien autour de moi. Cela n'a pas été possible pour deux raisons. Parce qu'on m'en a empêché. Et aussi un peu parce que j'ai abdiqué.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Plus tôt en début d'émission, nous avons entendu une entrevue avec Marie-Ève Arbour du projet Visages régionaux. L'organisme relance jeunes qui vient en aide aux familles dans le besoin. Et le sac à dos qui se penche sur le défi de l'itinérance. Et la musique de Jean-François Lessard avec « Je banalise ». Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez télécharger nos émissions en balado via laplumedefeu.com. À venir dans la deuxième partie, une entrevue avec l'organisme Interphase de Lille en France. Deux ermites ou l'art de vivre dans les bois. Une synthèse du livre « Les enfants du soleil ». Et pour conclure, un radiothéâtre avec l'apostrophe de Monsieur Tubercil. Sans oublier la musique de L'Homme parle avec « Militants du quotidien ». Lors de l'été 2015, j'ai rencontré Stéphanie Bost de l'organisme Interphase situé à Lille, en France, qui nous demandait des informations sur notre toute jeune émission de radio dans l'espoir de lancer une initiative similaire. Cette discussion fut enregistrée dans les studios de CIBL et j'ai trouvé pertinent de vous présenter son projet qui pourrait, qui sait, inspirer vos propres projets.
Avec notre association Interphase, en 2012, on a porté un projet qui s'appelait Utopie réaliste. D'accord. Et l'idée, c'était de rencontrer des porteurs de projets collectifs engagés dans de l'habitat groupé, des lieux culturels autogérés, des coopératives de semences, des coopératives vraiment visant l'implication de villageois. Et on a traversé l'Europe et l'Asie, en fait. Et donc, aujourd'hui, on a un site où tout ça est recensé. Et l'idée, c'est au-delà de faire le recensement, c'est de mettre en réseau ces porteurs de projets. Okay. Parce que finalement, tu peux avoir des outils qui peuvent être intéressants à mutualiser, à partager. Des fois, tu as des petits problèmes de gestion de la gouvernance qui peuvent être intéressants à remettre en perspective, surtout quand tu passes finalement d'une limite à une autre, c'est-à-dire quand tu passes de 15-20 personnes à finalement un collectif de 50, c'est plus les mêmes manières de gérer la gouvernance et l'implication de chacun. Donc, des petites idées qui peuvent être utiles, des méthodes un peu particulières, mais évidemment chaque cas est complètement différent selon le contexte culturel dans lequel il est.
Exact.
Mais c'est l'idée de créer, de générer du réseau, de la mise en lien sur des choses qui sont positives et qui montrent que finalement une alternative, une transformation sociale en profondeur est tout à fait possible. Et on travaille beaucoup sur toutes les logiques de ce que vous appelez ici communauté, ce qu'on aurait plutôt tendance à dire des pratiques collectives. Et en fait, on est en train de réfléchir à proposer une émission un peu sur le modèle de ce que vous avez lancé avec Aube. On a plusieurs radios associatives sur l'île. Il y en a une à qui j'en ai parlé parce qu'on s'est croisés dernièrement et ils m'ont dit que c'était intéressant. Donc l'idée, ce serait de donner la parole à la fois à des acteurs du quotidien qui n'ont pas forcément la parole dans les médias locaux, et cette idée de faire rêver, de donner l'envie, de pousser un peu la porte de l'imagination de ceux qui, pour l'instant, ne se donnent pas la possibilité de rêver, d'aller si loin. Okay. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui laisse libre cours à l'imagination et qui peut laisser plein de belles choses s'exprimer. Des trucs qui pourraient, pareil, être développés ici. Par exemple, on a porté là une carte collaborative gratuite et non commerciale de la ville de Lille, qui est en anglais d'ailleurs, c'est rigolo, mais parce qu'on a quand même des backpackers qui commencent à venir visiter Lille. Okay. Et en 2016, ça va être l'euro. Et donc l'idée, c'est que justement, on n'a pas envie que les touristes qui débarquent dans notre territoire, qui finalement est souvent mal perçu avec pas mal de stéréotypes, se limitent à faire les trucs touristiques habituels. Oui. Et donc on relance cette carte. Je pourrais peut-être vous en envoyer ou au moins te donner le lien pour que vous regardiez comment ça fonctionne. C'est un réseau de villes en Europe, Donc, ça a commencé en Belgique. Il y en a beaucoup dans toutes les villes belges.
Okay.
Et en France, on a été les premiers à lancer le truc à Lille en 2014.
Okay.
Et là, il y a Nantes qui a lancé. Il y a Saint-Etienne qui est en train de lancer la sienne. Donc, okay, c'est en train de faire des petits. Et c'est peut-être des choses qui pourraient être intéressantes aussi, puisque l'idée, c'est vraiment que ce soit les gens du territoire,
ouais,
qui donnent à voir ce qui compte pour eux sur, okay, leur territoire. Quels sont les endroits à visiter? Qu'est-ce que c'est qui fait finalement l'âme d'un territoire? Mais ouais, c'est des belles idées pour visiter autrement justement les villes. Et comme tu le dis, finalement, le vélo, il contribue complètement.
Ah oui, entre autres. Okay.
Mais je trouve que c'est sympa parce que pour ceux qui sont loin de tout ça,
mm-hmm,
c'est une belle manière de se raccrocher quelque part, de,
ouais,
se dire, en fait, rêvons des choses les plus folles. C'est peut-être ça qui nous permettra d'arriver effectivement à s'impliquer dans quelque chose.
Pour Aube, c'était une entrevue de Philippe Laramé.
Je vais abandonner, je donnerai tout jusqu'à la fin pour rien regretter. Mais le combat est quotidien, tous les jours faut s'accrocher. À force de mater l'horizon, on pourrait se faire une raison. Mais on continue la lutte au fil des saisons. On porte tous nos idéaux à bout.
À 10 km d'un petit village d'Abitibi, sans eau ni électricité, de très bons amis vivent en forêt, à la dure. Ils sont en fait frères et sœurs. Lui vit en ermite depuis bientôt 2 ans et elle depuis presque 6 mois. Guillaume a commencé par se construire une petite maison qui était à peine plus grande qu'une salle de bain d'étage au cégep. Dans ce loft, il y a un poêle à bois, un comptoir de cuisine, un lit et une toilette. En vivant dans ces petits, je peux vous dire qu'il a appris à s'endurer. Il a depuis peu construit une rallonge en bois qu'il a lui-même isolée avec de la mousse provenant du lac, située juste en face de sa maison. À l'âge de 23 ans, il a l'air d'être le gars le plus heureux du monde. Il me racontait qu'ayant terminé 2 années au collégial en lutherie, Guillaume en avait plus que marre de toutes ces formes de scolarisation conventionnelle. Il voulait ainsi s'en remettre à l'école de la vie. Lisant beaucoup, il met le nez autant dans des œuvres littéraires qui feraient partie du programme scolaire que dans des ouvrages d'artisanat, de jardinage ou de techniques de construction. Il coud, travaille le cuir, prend soin de son jardin. Il préfère de beaucoup quand la neige est fondue, c'est-à-dire entre les mois de mai et octobre, car il peut faire du canot et il prévoit même se lancer dans la culture de riz sauvage pour son usage personnel. Vous devriez voir les paniers qu'il tresse avec de l'écorce de bouleau. Amélie, sa sœur, est de 3 ans sa cadette. Elle m'expliquait que ce qui l'avait incité à vivre seule et à devenir responsable d'une terre, c'est qu'elle avait fait 2 ans au collégial, comme son frère. Elle trouvait qu'en art plastique, elle se voyait soumise à trop de contraintes. Amélie trouvait aussi qu'elle devait trop se conformer à la masse afin de rejoindre les objectifs du programme, qui n'allait pas toujours dans le même sens que ses convictions. Elle parle avec une telle passion du silence qui émane de sa maison. Elle peut chaque soir entendre les oiseaux danser d'une branche à l'autre. De sa grande vitrine, on peut voir les longues branches des conifères chatouiller les fenêtres de sa maison. Après réflexion, Amélie et moi en sommes venus à la conclusion que ce qui rendait le silence si pur était l'absence de réfrigérateur, qui est devenu avec le temps un bruit familier. Amélie me fait remarquer que depuis le début, c'est-à-dire que depuis 3 mois, elle se trouve plus tolérante et plus à l'aise face à la solitude. Amélie et Guillaume savent très bien qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre en cas de besoin ou lorsque l'envie se fait sentir de voir quelqu'un et de lui raconter tout ce que tu as réussi à faire entre le lever du soleil et son coucher. À ce que je peux remarquer, ils semblent avoir une relation très fraternelle, de support moral. C'est très beau de les voir resserrer les liens familiaux au fil des jours. À travers de longues discussions traitant de sujets très variés, je remarque la beauté qu'a la lenteur et le calme des choses. Il n'y a pas de sonnerie de téléphone. C'est très paisible et ce qui m'impressionne le plus dans tout ça, c'est de voir l'habitude qu'ils se sont créée. Ils se lèvent et chacun dans leur maison respective commence la journée en allumant leur poêle. Dès que le soleil se lève, ils se mettent à l'ouvrage en améliorant leur maison et leur terrain, en bref, leur sort. Ils transportent leur bois à l'aide de traîneaux. S'approvisionnent en eau en parcourant une distance d'environ 5 km qu'ils font en raquette, font de la cuisine, lisent des bouquins desquels ils avaient mis la lecture en suspens lors de leur fréquentation de l'école. Auprès de ces deux phénomènes, une journée passe très rapidement, car ils sont très bons vivants et on ne peut s'ennuyer quand on gravite autour d'eux. Les activités telles que rentrer du bois ne sont pas vraiment exigeantes au niveau mental. On peut voir des effets directs. Si le bois n'est pas rentré, le poêle allumé, l'eau transportée, la soif et le froid se feraient vitement sentir s'ils préféraient passer tout leur temps à se prélasser au soleil. Amélie me racontait que souvent les gens du village les regardaient d'un air assez intrigué. Ils ne savent pas trop ces villageois, s'ils sont frères et sœurs ou s'ils sont mariés. Ils trouvent la situation assez cocasse. Guillaume et Amélie se décrivent tout simplement comme de bons voisins de terrain. Ils ne se gêneraient pas à aller emprunter une tasse de sucre à l'autre. Pendant les vacances, je me suis adonnée à lire un livre intitulé « Walden » ou « L'art de vivre dans les bois » qui a été écrit en 1939 par l'auteur Henri David Thoreau. Une parole célèbre de l'auteur a été « Si un homme ne marche pas au même pas que ses compagnons, peut-être est-ce parce qu'il n'entend pas le même joueur de tambour que les autres? » Alors, au risque de paraître moraliste, je vous dirais de faire ce que vous croyez être bon pour vous de faire. Peu importe si ce n'est pas dans le même sens que la norme établie par la société.
Un texte de Jasmine Dumas, tiré de Aube, le recueil de solutions. Adaptation et narration de Marie-Claude Journeau.
I believe in fires at midnight when the dogs have all been fed. A golden toddy on the mantle, a broken gun beneath the bed. Silken mist outside the window, rocks and you slip in the dark. Too much hurry ruins the body, I'll sit easy and the spark.
Savez-vous qu'en Allemagne, au 19e siècle, des gens se promenaient nus dans la nature, chantaient, dansaient, vivaient en communauté, dormaient à la belle étoile, ne mangeaient que des fruits et légumes et exploraient leur créativité? Ce mouvement de retour à la nature est apparu en réaction à la révolution industrielle et scientifique de l'époque. Cette génération de jeunes rebelles qui se disaient les enfants du soleil ont renoué avec Germania, la religion païenne qui régnait en Allemagne il y a 2000 ans, avant l'arrivée du christianisme. Ils vénéraient Nertus, la terre-mère. Vivaient en communauté, s'efforçaient de vivre en harmonie avec les cycles de la nature et redonnaient aux femmes la place prédominante qu'elles occupaient. Il y eut 3 principaux mouvements de réforme sociale, tous apparus à la fin du 19e siècle. Van der Vogel, dit « les esprits libres », est un mouvement fondé en 1895 composé des jeunes de 14 à 18 ans en rébellion contre leurs parents, la bourgeoisie et la société superficielle, matérialiste, industrialisée et technocratique de l'époque. En 1911, le mouvement comptait 19 unités régionales, 412 postes dans 350 villes et 45 000 membres. Les oiseaux migrateurs cherchaient avant tout la communion avec la nature et le retour à l'esprit traditionnel des paysans. Ces vagabonds valorisaient beaucoup le travail de leurs mains, ils mettaient aussi en commun leur argent. Ils faisaient de longues promenades, le sac au dos, dans le pays, où ils chantaient d'anciennes chansons allemandes et dormaient dans des grottes ou couchaient simplement à la belle étoile. Ils se baignaient nus dans les rivières, s'installaient dans des châteaux en ruines où ils faisaient des jams de guitare et de mandoline. Ils partaient parfois pour un mois à marcher des centaines de kilomètres. Il y avait des campements permanents dans la nature où ils se réunissaient pour célébrer les équinoxes et les solstices à la manière de l'ancienne tradition germanique. Ils avaient leur propre magazine dans lequel ils publiaient des poèmes et autres articles sur leur philosophie de vie. On dit que c'est de là qu'est parti le mouvement des auberges jeunesse qui a commencé en 1907 à Altena, en Allemagne. Un deuxième mouvement du nom de Naturmenschen, dit « les hommes naturels », était le plus radical. Ses membres marchaient en sandales ou pieds nus, avaient pour tout vêtement une tunique, portaient les cheveux longs et la barbe. Ils se nourrissaient de fruits, de légumes et de noix. Les plus radicaux d'entre eux étaient les Naturapostels, les apôtres de la nature, qui erraient dans les pays d'Europe du Nord à prêcher l'évangile de la nature. Lebensreform, ou réforme de la vie, est une expression utilisée pour la première fois en 1896, englobait divers courants sociaux allemands du 19e siècle et de la moitié du 20e siècle, particulièrement le végétarisme, le nudisme, la médecine naturelle, l'abstention d'alcool, la réforme vestimentaire et sexuelle, l'établissement de communautés, de jardins communautaires biologiques et la libération des femmes et des enfants par la valorisation des valeurs féminines et maternelles. À Berlin, vers 1900, il y avait plus de 20 restaurants végétariens. Parmi les nombreuses communautés d'époque, la plus célèbre était la communauté Monte Verita, située à Ascona, en Suisse, près de la frontière de l'Italie. Entre 1900 et 1920, Ascona était devenu le point de ralliement de tous les rebelles spirituels de l'Europe. C'était l'époque de toutes les expérimentations. Surréalisme, danse moderne, dada, paganisme, pacifisme, psychanalyse, médecine naturelle. Il y avait un centre de santé qui traitait les gens par le jeûne et les cures de fruits, et des jardins communautaires où les gens jardinaient nus. Les citadins adeptes du Lebensreform allaient s'y ressourcer, faire des bains de soleil, de la marche, de la natation, jeûner et dormir à la belle étoile. Il n'y avait ni café, ni alcool, ni viande, et seuls les aliments crus étaient permis. Parmi les adhérents les plus connus à ces mouvements figurent Hermann Hesse, Rudolf Steiner et Carl Jung. L'influence de ces mouvements s'est fait le plus fortement sentir jusqu'à la Première Guerre mondiale, en 1914. Par la suite, plusieurs de leurs adeptes ont traversé aux États-Unis, principalement en Californie, ce qui a donné naissance au mouvement des médecines alternatives et plus tard au mouvement hippie dans les années 60. Ce mouvement allemand, loin de s'être éteint, a au contraire fait son chemin jusqu'à aujourd'hui. Malgré les attaques de l'établissement médical qui s'acharne depuis plus d'un siècle à étouffer ces doctrines qui donnent aux humains la liberté, l'autonomie, le bonheur et la santé, et ce, par des méthodes tout à fait simples et gratuites. Ces pionniers seraient sûrement heureux de voir qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens réalisent l'importance d'une vie proche de la nature et le cul-de-sac de notre civilisation polluée et malsaine, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le livre « Children of the Sun, a Pictorial Anthology from Germany to California » publié chez Nirvana Press. C'était un texte de Marie-Josée Veilleux, tiré de « Aube, le recueil de solutions ». Adaptation et narration de Philippe Laramé.
Be on my side, oh, be on your side. There is no reason for you. It's so hard for me staying here all
alone. On s'entend qu'en tant qu'être humain, tout ce qu'on cherche sur Terre, c'est d'être bien. Bien dans les bras de sa maman, bien avec sa blonde ou son copain, bien à l'école, bien à l'ouvrage, bien au salon parmi les siens. Mais qui est content vraiment tout le temps ? Personne, car c'est pas toujours évident, et tous on manque de quelque chose, si c'est pas d'amour ou d'attention, c'est d'argent ou de temps, sinon de beauté, de santé, de compagnie ou de bonne renommée. Comme ce monde est dur pour les cœurs tendres, il paraît que chacun récolte ce qu'il a semé, mais que pour se faire entendre, faut d'abord oser s'exprimer. Chacun qui sait parler en est capable, c'est formidable. Mais si tu t'abstiens, citoyen, c'est bien simple, t'existes pas, t'es rien. Car même quand t'as tout ça, un beau char, une grosse cabane, des flots, un mari, une femme, que c'est bien gagné, assuré, garanti, tu finiras par vieillir. Et à peine t'as goûté aux récoltes ramassées dans le passé, t'es déjà en train de vieillir et obligé de repartir. Comme t'es venu au début, tout nu, tout perdu, vulnérable comme jamais devant l'immensité de la mort. Et les absents comme les inconscients ont toujours tort. Tous on a peur de l'inconnu, des gros méchants, des immigrants, du premier venu, des blessures et des factures. Peur de manquer, d'être humilié, de souffrir ou d'être dépendant. Et surtout de finir seul, oublié de tous, puis de mourir. sans même une seule main à tenir. Dans cette vie, il faut donner avec plaisir, pas juste le surplus de ce qu'on a reçu, pas juste des sous vite flobés par les héritiers, pas juste laisser des déchets, une terre plus maganée, car l'essentiel, l'amitié, l'amour, la santé comme la spiritualité, ça se bâtit tant qu'on est conscient et debout sur ses pieds, même si c'est un par un qu'on sera sauvé. La plupart font pas grand-chose pour s'éterniser dans la mémoire de la terre et de ceux qui vont rester. Pour se faire entendre, faut d'abord oser s'exprimer. Et ça, chacun qui sait parler en est capable. Le dialogue, l'échange, le partage, c'est plaisant. Quand on est écouté, entendu, parler vrai, ça fait même fuir le diable. Découvrir l'autre, dans la joie, l'amitié, le respect. Des fois, juste à deux, c'est de la pure poésie. Mais à 10, à 100, à 1000, à tout un pays, vous vous souvenez, mai 68, la révolution tranquille, 2012, c'était de la douce folie, malgré tout constructive. Un pas vers une certaine idée de notre humanité enfin assumée. À chacun de nous et tous de se réinventer, enfin évoluer.
Un texte d'Annie Schneider du nom de Unique Ensemble.
Après avoir été enlevée par un dénommé Garibaldi, j'eus l'étrange surprise de découvrir sous sa demeure une immense grotte dans laquelle se développait un projet titanesque, le projet Utopie, dont je découvrais lentement les ficelles. Archibald, le jeune homme qui précédemment s'était entretenu avec moi au sujet des pommes de son père, habitait à quelques pâtés de maison de ma chambre et je le croisais tandis qu'il partait un panier à la main. Un intemporel torchon au motif carrelé cachait une série de robes.
Maître Tubercil, quelle joie de vous revoir par ce temps!
Je regardais le ciel, imperturbablement caressé par la voûte haute de cette grotte immense. Il faisait indéniablement beau, sans compter la douce brise qui semblait parvenir d'un lieu inconnu.
Que projetez-vous de faire aujourd'hui?
Eh bien, jeune homme, je n'en ai pas la moindre idée. Notre hôte s'est dérobé et je n'ose pas sortir sous peine de le mettre en rogne. Aussi, je pense me renseigner un peu plus sur vos us et coutumes. Mais avant, satisferais-tu ma curiosité? Où vas-tu donc avec ce repas? Le jeune Archibald sautillait gaillardement sur place comme un jeune pinson. Il me répondit sans autre préambule.
Je vais voir mon grand-père. Vous savez, il est l'un des premiers ingénieurs mécaniciens qui a engagé Maître Garibaldi afin d'aménager les souterrains.
Je serais curieux de le rencontrer.
Suivez-moi, vous aurez l'occasion d'approfondir votre avis à notre sujet. La vision de Maître Garibaldi ne s'arrête pas des plans et des aphorismes philosophiques. Nous-mêmes habitants, avons transformé ces idées à notre goût pour vivre bien, sans souci de périclité.
Nous partîmes en direction du nord, là, où une colline cachait sous la lueur printanière du soleil artificiel un grand hangar de bois renforcé de plaques en métal. Une fumée blanche sortait des multiples cheminées de l'édifice qui bourdonnait sous l'incessant bruissement métallique des pales établies sur ses côtés. Au pied de ces pales, un vieil homme fouillait en grognant dans une boîte à outils bien trop grande, une clé à molette dans la main.
Ah, Archibald, je t'attendais. Je suis à court de pain, et il faut que tu ailles me faire une course là-haut. Va voir le bonze, Michael, et demande-lui de commander de l'huile.
Il s'arrêta et fronça ses sourcils broussailleux dans ma direction.
Qu'est-ce que tu amènes là?
Je me présente, Aloysius Tubercil, maître philosophe. J'ai le privilège d'être l'hôte de notre ami commun, maître Garibaldi.
Ami? Qui a dit ami? Cet énergumène est loin d'être mon ami. Mais je dois avouer que sa folie des grandeurs nous est bien utile à tous. Et puis, sans lui, nous n'aurions pas le loisir de faire avancer la science.
En me prenant en aparté avant de partir faire des courses pour son grand-père, le jeune homme me glissa quelques mots. Le vieil homme disposait d'une vision toute particulière de la vie dont aucune pensée éthique ne pouvait obscurcir la froide visée. Contrairement à son fils et à son petit-fils, ils ne s'étaient pas adaptés au monde que Maître Garibaldi avait fait pour eux, mais avaient plutôt participé à sa construction. Aussi avait-il peut-être un autre regard sur l'affaire, contrairement aux autres de ses concitoyens. Un regard de démiurge presque, quoi qu'il en soit, il ne parlait guère de la mise en place du projet et restait concentré dans ce hangar à peaufiner les réglages d'une machine étrange dont lui seul devait avoir le secret. Une fois le gamin parti en direction de la surface, s'il était possible d'appeler la demeure de Garibaldi ainsi, le grand-père m'avait complètement oublié. Je le surpris alors en engageant à nouveau la conversation. Que faites-vous donc là ?
Je demande pardon ?
Vous n'arrêtez pas de trifouiller des engins dont la forme m'échappe. Que faites-vous ? Est-ce une invention ?
Non, cela non. Vous avez sous les yeux la machine à vent. Elle permet, selon différents réglages, de produire, couplé à d'autres machines à l'intérieur du hangar, un climat quasi naturel à la grotte.
Pour ainsi dire, vous faites la pluie et le beau temps.
Pas vraiment. En l'occurrence, je suis surtout en train de régler le tout pour assurer une qualité de vie à ces pauvres bougres. Les semailles ont eu un hiver trop doux à cause d'une erreur de ma part. J'espère pouvoir leur procurer un avril pluvieux, afin de rectifier cette erreur.
C'est un sacré travail.
Plus qu'un travail, le philosophe. Un sacerdos. Si vous saviez depuis combien de temps je dors avec pour seule compagnie cette tas de ferraille. Quoiqu'elle au moins ne pose pas trop de questions.
Je vois. Peut-être devrais-je aller faire un tour et vous fixer le problème.
Voilà. Faites donc ça. Nous aurons tout le loisir de discuter autour d'un repas ce soir. Mais si vous entrez dans le hangar, ne touchez à rien. Mais je pense que vous n'êtes pas assez stupide pour tenter quoi que ce soit avec ces leviers.
Je partis donc loin de lui, juste assez pour ne plus entendre ses grognements, et m'assis pour méditer quelque peu sur l'étrange atmosphère de ce lieu. De drôles de gens, des originaux, des sages et des inventeurs. J'avais sous la main tout ce que l'histoire diluait en un siècle. En quelque sorte, j'exultais à l'idée de voir à l'œuvre l'aspect le plus génial des civilisations, à savoir le progrès.
C'est ce qui conclut l'épisode 43 de Aube. Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com. Si vous vous sentez inspiré par Aube, nous vous invitons à participer à notre émission. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Si vous avez deux minutes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter. Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, de Marie-Claude Journeau, de Jean-Baptiste Gardarin, Aurélie Suberchico, Marie-Claude Tardy, Annie Schneider et Martin Junior Pelletier. Un grand merci à Maurice Bolduc pour les propositions musicales. À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé.